VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 18 septembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Sevudia. Pour commencer les titres. Au Mali, des hommes armés s'emparent de deux camps militaires dans le nord du pays. Au Soudan, combat et incendie à Khartoum, au sixième mois de la guerre entre généraux rivaux. En Tunisie, des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne expulsés du centre de Sfax. En Libye, une semaine après les inondations, Derna cherche toujours ses morts. Ici aux États-Unis, le syndicat automobile américain menace d'une possible amplification de la grève entamée vendredi. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, des hommes armés se sont emparés hier de deux camps militaires dans le nord du pays, ont indiqué à l'AFP deux élus locaux, tandis qu'un porte-parole d'une alliance de groupes armés à dominante Touareg revendiquait l'attaque. L'armée malienne a confirmé sur les réseaux sociaux que la ville de Léré, dans la région de Tombouctou, avait été attaquée vers 13h30 local, soit 15h30 GMT. Elle a précisé que des informations plus détaillées suivraient. Un officiel militaire malien a pour sa part dit à l'AFP « Nous sommes en train de faire face à la situation. Pour le moment, nous n'en dirons pas plus. » Cette escalade coïncide avec une reconfiguration sécuritaire dans le nord. Après le départ de la force anti-djihadiste française en 2022 et celui en cours de la MINUSMA, la mission de l'ONU, toutes deux poussées vers la sortie par la junte au pouvoir à Bamako. Au Soudan, les forces paramilitaires ont attaqué dimanche le quartier général de l'armée dans le centre de Khartoum. Pour la deuxième journée consécutive, ont rapporté des témoins au sixième mois d'une guerre entre généraux rivaux qui a fait des milliers de morts Yacouba Ouédraogo.
Des affrontements ont désormais lieu autour du quartier général avec différents types d'armes, ont déclaré des témoins par téléphone depuis Khartoum. D'autres ont fait état d'affrontements dans la ville d'El Obeid, à 350 km plus au sud. Les combats entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide de son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, se sont intensifiés depuis samedi, provoquant des incendies dans plusieurs bâtiments clés du centre de la capitale soudanaise. Nawal Mohamed, 44 ans, a affirmé que les combats de samedi et dimanche ont été, selon elle, les plus violents depuis le début de la guerre. Depuis son déclenchement le 15 avril, ce conflit a fait près de 7 500 morts, selon une estimation prudente de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project. Il a provoqué le déplacement de plus de 5 millions de personnes, dont près de 3 millions ont fui les frappes aériennes incessantes, les tirs d'artillerie et les combats de rue dans les quartiers de Khartoum.
En Libye, une semaine après les inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts dans la ville de Derna, secouristes locaux et étrangers s'activaient dimanche à rechercher les corps de milliers d'autres personnes toujours portées disparues. Selon une journaliste de l'AFP, le désastre a laissé un paysage de désolation, ponts coupés en deux, voitures renversées, camions fracassés, poteaux électriques et arbres déracinés et effets personnels maculés de boue. Le ministre de la Santé du gouvernement basé dans l'est du pays divisé a dit hier soir que la catastrophe a fait 3 283 morts après la découverte de 31 corps dimanche. Mais on s'attend à un bilan final beaucoup plus lourd en raison du très grand nombre de disparus. Par ailleurs, 4 membres d'une équipe de secours grecque ont été tués et 15 autres blessés, dont 7 en état critique, dans un horrible accident de la route. Selon le ministre libyen de la Santé, leur véhicule est entré en collision avec une voiture transportant une famille libyenne, dont 3 de ses membres ont été tués et 2 autres grièvement blessés, a ajouté le ministre. À Athènes, l'état-major de l'armée grecque n'a parlé que de blessés légers. quelques 1600 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été expulsés dimanche par les forces de sécurité tunisiennes d'une place dans le centre de Sfax après avoir été chassés de leur logement début juillet, a indiqué hier une ONG. Précision de Mohamed Humfa.
Selon Romdan Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG qui suit de près le dossier de la migration en Tunisie, pas moins de 500 migrants ont été dispersés par petits groupes en direction des zones rurales et vers d'autres villes. Les autorités tunisiennes mènent depuis samedi une vaste campagne sécuritaire contre les migrants clandestins originaires pour la plupart de pays d'Afrique subsaharienne. Elles ont annoncé l'arrestation de près de 200 migrants subsahariens qui s'apprêtaient à effectuer une traversée clandestine vers les côtes européennes. Début juillet, des centaines d'autres migrants ont été chassés de Sfax et expulsés par les forces de sécurité tunisiennes, notamment vers une zone frontalière désertique avec la Libye, où au moins 27 sont morts et 73 portés disparus. Les migrants subsahariens sont menacés en Tunisie depuis le discours jugé incendiaire en février du président Kais Saied sur l'immigration clandestine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ursula von der Leyen a présenté hier, sur la petite île italienne de Lampedusa, un plan d'urgence pour aider Rome à gérer les flux migratoires en provenance d'Afrique du Nord et appeler les partenaires européens de la péninsule à la solidarité. Précision de John Linden.
C'est un plan d'aide à 10 points qu'a détaillé Ursula von der Leyen, censé conjuguer fermeté à l'encontre des passeurs et facilitation des voies légales d'entrée dans l'espace européen pour les candidats éligibles à l'asile. Il devrait aussi prévenir la répétition d'épisodes d'arrivées massives qui mettent sous forte tension les capacités logistiques et administratives de la péninsule. L'immigration irrégulière est un défi européen qui a besoin d'une réponse européenne, a-t-elle martelé lors d'un point de presse. Nous exhortons les autres États membres à utiliser le mécanisme de solidarité volontaire, a-t-elle dit, sans mentionner l'Allemagne qui a récemment décidé de ne plus recevoir des migrants arrivés en Italie. Giorgia Meloni reproche à ses partenaires européens de manque de solidarité envers l'Italie qui a accueilli sur son territoire près de 130 000 migrants depuis le début de l'année.
Le mouvement de grève entamé vendredi chez les trois principaux constructeurs automobiles américains pourrait connaître une amplification si de meilleures propositions ne sont pas faites, a prévenu hier le chef du syndicat des ouvriers du secteur, Gaby Dorsil.
Si nous n'obtenons pas de meilleures offres, nous allons procéder à une amplification de la grève, a déclaré le patron de United Auto Workers lors d'une interview à la chaîne CBS. Ça fait des décennies qu'on est laissé à la traîne, a-t-il ajouté, expliquant que les ouvriers qu'il représente en ont marre. Les discussions entre le syndicat et les dirigeants de General Motors, Ford et Stellantis ont repris samedi dans l'optique de mettre fin au mouvement de grève. Nous avons eu des discussions raisonnablement productives avec Ford aujourd'hui, a indiqué le syndicat samedi. Stellantis a indiqué samedi proposer une hausse de près de 21% sur 4 ans contre 14,5% il y a encore une semaine. GM et Ford offrent, eux, de relever les salaires de 20% au total. Trois sites sont à l'arrêt depuis vendredi. Le syndicat réclame 40% d'augmentation pour tous les ouvriers. L'enjeu est considérable pour Joe Biden, candidat à un second mandat. Il a envoyé vendredi un message de soutien au syndicat et appelé les constructeurs à aller plus loin de leurs propositions.
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a rencontré ce week-end à Malte le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. On fait savoir dimanche, Washington et Pékin, les deux plus grandes puissances économiques mondiales, tentent d'apaiser des relations troublées et pourraient préparer une potentielle réunion entre les présidents Biden et Xi Jinping d'ici la fin de l'année. Un haut représentant américain a par ailleurs déclaré qu'il y avait eu de premiers signaux limités laissant à penser que des communications militaires entre États-Unis et Chine pourraient être rétablies. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, va se rendre en Russie de lundi à jeudi pour des discussions, notamment avec son homologue Sergei Lavrov, consacrées à la sécurité, ont annoncé ses services. des dizaines de milliers de manifestants de quelques 700 organisations et groupes d'activistes ont manifesté hier dans les rues de New York réclamant plus d'action contre le changement climatique 2 jours avant l'ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « Biden met fin aux énergies fossiles, les énergies fossiles nous tuent » ou encore « Je n'ai pas voté pour les incendies et les inondations ». Le président Biden figure notamment sur la liste des dirigeants mondiaux qui se retrouveront à partir d'aujourd'hui à l'ONU pour l'Assemblée générale dont l'ouverture officielle est prévue mardi.
Au Sénégal, le projet PAVI, mis en œuvre par la BAD depuis 2020, a permis à plus de 3200 jeunes et femmes d'être formés dans des métiers spécifiques et en gestion d'entreprise. 3176 entreprises ont été formalisées et 6440 ont reçu un financement de 38 milliards de francs CFA. PAVI a également contribué à réduire l'immigration clandestine. En offrant aux jeunes des opportunités économiques viables, il leur donne une alternative à l'exil. Au Congo-Brazzaville, la société Tindakash a signé des accords de partenariat avec 3 compagnies, Veritas, SGI et Enex, pour réaliser son projet de centrale solaire hybride à Igné dans le Poule, qui vise à produire 65 MW d'électricité. Le projet, qui devrait être mis en service en 2024, contribuera à réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à améliorer l'accès à l'électricité. Pour terminer, en Ouganda, l'économie devrait croître de 6% au cours de l'exercice 2023-2024 qui prendra fin en juin 2024 grâce à l'industrie, aux services et à l'agriculture, a déclaré le ministre des Finances, Mathias Kasaïdia.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer avec le retour des interclubs de la CAF. Le deuxième tour préliminaire, allez.
Oui, et en Ligue des Champions, les Ghanéens de Mediama ont su à domicile vainqueur 3-1 des Guinéens de Oroya. Succès précieux du TP Mazembe en déplacement au Malawi, score 1-0 face à Big Bullet. Belle option prise aussi par l'espérance de Tunis sur le terrain des Burkinabés de l'AS Douane, tout comme les Algériens du CR Belouizdad, victorieux 3-1 en Sierra Leone contre Bourg-Angers.
Le Mamelodi Sundowns a déjà un pied en phase de poule.
Et c'est suite à son succès 4-0 sur le terrain des Burundais de Bumamuru. C'est presque fait aussi pour le FC Nouadhibou, vainqueur 3-0 à Bamako devant l'AS Real. Pareil pour les Tanzaniens de Yanga qui sont allés battre 2-0 les Soudanais d'El Merrek. Tout reste par contre ouvert entre les Angolais du Primero do Agosto et les Soudanais d'Al Hilal qui se sont neutralisés 0-0. Pareil entre les Rwandais d'APR et les Égyptiens de Pyramide. Nul également, mais d'un but partout concédé à domicile par le Afia de Conakry devant le Wydad de Casablanca.
On jouait aussi le deuxième tour préliminaire, aller en Coupe CAF.
Avec le succès écrasant des Libyens de Benghazi 6-1 qui étaient face aux Rwandais du Rayon Sport. Les Ghanéens de Drum ont battu 2-1 les Sierra Leonais de Kalon FC. Même score en faveur des Ivoiriens d'Afat Djekanou sur le terrain des Guinéens de Koya. Pour le reste, notons entre autres la belle victoire 2-0 des Djiboutiens d'Atassola sur le Zamalek du Caire. Même score en faveur du stade malien qui recevait les Aigles Noirs du Burundi. Succès 2-1 en déplacement des Diables Noirs du Congo en Zambie contre Mouza. Et puis défaite 3-1 des cheminots de Lupopo sur le terrain des Sud-Africains de Chekoukoun.
Pétanque à présent avec la fin de la Coupe du Monde à Cotonou.
Et c'est la Thaïlande qui remporte la 50e édition de cette compétition en battant l'Espagne en finale 13-10. Les Thaïlandais succèdent ainsi à la France qui finit 3e avec le Burkina Faso. Le Bénin, pays organisateur, s'en sort avec une médaille d'or remportée dans l'épreuve des doublettes mixtes.
On termine avec un autre mondial, celui de rugby, qui se déroule actuellement en France.
Exactement, Idrissa est le tenant du titre. L'Afrique du Sud signe sa seconde victoire de poule après avoir surclassé. Avec bonus offensif, la Roumanie 76-0. En revanche, la Namibie s'incline une deuxième fois, battue par la Nouvelle-Zélande, soit 11-3.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La France a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre et sans exception tous les projets de coopération avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une décision qui a suscité des réactions dans ces trois pays. Au Niger, notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a tendu son micro à des acteurs universitaires et culturels nigériens. Suivons son reportage.
Sans ignorer son apport au développement culturel du Niger, le président de la Fédération professionnelle des arts, de la culture, de la communication et du tourisme du Niger estime que cette coopération avec la France est sujette à beaucoup d'égards à des interrogations. Oumarou Hachimou dit défaut.
Les centres culturels, nous savons les programmations. Nous connaissons ces programmations. Vous pouvez avoir un artiste français qui peut avoir 1000% du cachet de l'artiste nigérien qu'on pense mettre en coopération avec eux. Vous avez vu une fois un artiste nigérien ou africain qui est devenu une grosse star internationale avec l'accompagnement de la France? Non, tu peux avoir le nom. Pas l'économie. Tous ces, les autres que vous voyez, les Issou Ndour, les Oumou Sangaré, les Ali Farka Touré, c'est parce qu'ils ont passé dans un autre circuit anglophone, autrichien, américain et autres. Les spectacles que nous partons en France et les spectacles que nous faisons dans les quartiers, dans les bibliothèques, dans les... par manque de considération, par manque d'estime, c'est pas parce qu'on n'est pas des artistes de valeur.
Artiste conteur de son état, Oumarou Hachimou pense aussi que les acteurs culturels doivent, avec cette décision, faire preuve de plus d'imagination et de résilience.
Le fait de faire ce bras de fer a fait que nous avons compris beaucoup de choses. Dieu merci, on va faire en sorte que le Nigérien redevient ce Nigérien qui est conscient, qui adapte ce qu'il veut, comme il veut. C'est leur décision, nous respectons leur décision, ils n'ont qu'à aller et qu'ils sachent que si eux, ils sont en mesure de décider, nous aussi, nous avons décidé de leur départ.
La France coopère aussi avec le Niger dans les domaines universitaires et de la recherche. Pour le professeur Abdramane Diko de l'Université de Zinder, la décision n'aura pas un grand impact sur le fonctionnement des institutions universitaires.
Nos centres de recherche et nos universités sont généralement financés à 100% par nos États. Donc la coopération, elle a un effet assez significatif, mais n'impacte pas directement la production de la connaissance et la bonne marche de nos institutions universitaires et de nos grandes écoles et nos grands instituts aussi de recherche.
Pour le professeur Diko, la conséquence de cette décision, c'est la réorientation de la coopération vers d'autres institutions.
Nous allons aller vers d'autres institutions de recherche beaucoup plus crédibles, puisqu'il faut le dire, une décision politique n'a véritablement pas de sens lorsqu'elle impacte directement la production de la connaissance et les domaines éducatifs. Ces universités européennes et ces centres de recherche européens ont plus véritablement à perdre qu'à gagner.
Aussi, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont conclu le 16 septembre un traité dénommé la charte du Liptako-Gourma, portant création de l'Alliance des États du Sahel en sigle AES pour faire face ensemble à toutes les menaces. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Bénin, l'année scolaire et académique qui démarre ce lundi 18 septembre pourrait connaître quelques perturbations. Les centrales syndicales appellent le gouvernement à se pencher sur la revalorisation de la fonction enseignante au risque de perturber l'année. Précision de notre correspondante à Cotonou, Jeannette Fleur-Adandé.
Durant l'année scolaire passée, le gouvernement et les confédérations syndicales ont tenu plusieurs séances de négociation pour évacuer la liste des revendications. C'est aujourd'hui que doit démarrer la nouvelle année scolaire et académique. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin considère que le gouvernement est passé à côté de l'essentiel et concentre son énergie sur une crise à l'étranger avec des menaces d'intervention militaire au Niger. Kassamampo est le secrétaire général de la CSTB.
Il faut que le gouvernement du président Patrice Talon reverse les AME comme agents contractuels de l'État. Au lieu de s'occuper de la guerre au Niger et tout ça, non. Il faut s'occuper des problèmes de l'école.
Pourtant, à la fin de la dernière séance de négociation, le ministre d'État Blaye Biotiane était confiant quant au règlement définitif de toutes les questions qui fâchent.
Donc nous avons passé en revue les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour satisfaire aux questions et aux doléances qui ont été formulées par les centrales sur ces deux ministères. Une importante augmentation de salaire a été faite en fin d'année dernière, variant en général entre 30 et 50% même. D'autres mesures ont été prises qui concernent donc les recrutements importants dans la fonction publique, mais aussi dans des entreprises du secteur privé ou parapublic.
Pour le secrétaire général de la CSTB, la revalorisation salariale tant vantée par le gouvernement n'est pas conséquente et peut paraître ridicule lorsqu'on s'attarde sur le processus d'attribution.
C'est vrai que le gouvernement avait parlé d'augmentation des salaires sans nous expliquer que, en fait, dans ce qu'il appelle augmentation des salaires, il y avait la mensualisation des primes. Dans les faits, c'est ce qu'on a constaté. Au niveau aussi des enseignants, on veut mensualiser les primes. Et quelles primes? Où toute l'année, les primes rassemblées ne dépassent pas 109 000 qu'on veut diviser par 12, y compris des primes de rentrée.
Les centrales syndicales ne sont pas les seules à se plaindre. Un tour vers les stands de vente de fournitures scolaires et le spectacle est désolant. Les vendeurs n'en peuvent plus de la mévente car les parents ne se bousculent pas pour acheter.
Cette année, il n'y a pas assez d'affluence. Bon nombre de parents viennent ici pour demander les prix. C'est tellement qu'ils vont repasser.
On peut dire que c'est le manque de moyens. Au moins, tout devait bien commencer au niveau de la vente, mais on sent que ça va très lentement. Les parents sortent, ils viennent juste pour s'informer des prix et se retourner.
De leur côté, les parents qui subissent déjà une hausse des prix de tous les produits estiment que les articles scolaires coûtent trop cher. C'est un drame cornélien, une équation difficile pour les familles qui ont souvent plusieurs enfants à nourrir et qui doivent aussi aller à l'école. Elles espèrent que le gouvernement et les syndicats finiront par s'entendre et permettre d'éviter une année scolaire tumultueuse. De Cotonou, Jeanne Cloadande pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Gabon, exploitation abusive des journaliers, traitement inhumain du personnel féminin, non-versement des prestations sociales par leurs employeurs chinois et indiens auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce sont autant de raisons qui ont motivé la grève des employés de la zone économique de Libreville. Spécialisé dans la transformation locale du bois, ce hub industriel jouit d'une réputation de nouveau modèle économique. Mais avec la chute de l'ancien régime, la propagande des autorités a cédé le pas au malaise social sur ce site, nous dit dans ce reportage notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est une grogne inédite. Plus de 10 ans après la création de la zone économique de Libreville, muée depuis peu en zone d'investissement spécial, des milliers d'ouvriers engagés par des sociétés chinoises et indiennes ont décidé de briser le silence pour réclamer des meilleures conditions de travail.
La seule chose qu'on veut ici en tant que jeunes Gabonais, on veut que ce site appartienne à l'État. Comme ça, nous allons tous jouir de nos droits.
Yann Farel Nzamba-Zamba, l'un des grévistes, témoigne.
Ici dans Ola, les gens travaillent de 7 heures à 19 heures pour 5 000 francs. Beaucoup d'usines ne prennent pas avec contrat. Et même les contrats sont des contrats de fantaisie. Pour 5 minutes de retard, on vous renvoie et on prend un nouveau à votre place alors que vous êtes censé être contractuel.
Au mauvais traitement salarial s'ajoutent des cas de harcèlement contre les employés. Hélène Mendy est l'une des victimes du chantage en entreprise.
On m'a harcelé d'avoir des rapports sexuels avec certains responsables. Et quand j'ai refusé, on a dû me licencier. Et là, moi, je suis mère des enfants. Je suis obligée de faire du commerce à la maison parce que je ne peux pas rester à la maison sans travail.
Parmi toute cette foule qui crie à l'injustice et dénonce la précarité de l'emploi à Olam, une voix se fait entendre. C'est celle de Noir, victime d'un accident de travail. Il s'est fait broyer le doigt sur un séchoir de contreplaqué.
Ils sont fatigués de cette maltraitance-là, qui est vraiment des dommages par rapport à cet accident dont j'ai été victime.
Un cas de plus sur une longue liste des victimes d'accidents de travail. Et comme toujours, la prise en charge des employeurs se limite aux premiers soins. Autant de situations évoquées au cours d'une réunion d'urgence regroupant les autorités administratives de la zone économique, les délégués du personnel et la direction générale du travail. Émile Léoukadi Moussadji, directeur général du travail.
Nous avons un texte qui décrit bien l'horaire de travail en République gabonaise. Nous avons un texte qui décrit le paiement des heures supplémentaires. Les salariés ont accepté la procédure qui a été mise en place.
Aux dernières nouvelles, la grève des employés de la zone économique a fait mouche. Dans un communiqué, l'autorité administrative de l'ASIS, donc CUC, a mis en demeure 14 sociétés pour la régularisation de leur situation, accompagnées de contrôles et pénalités en vue de la régularisation des situations illégales. Mais du côté des employeurs, c'est toujours le silence total. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, le CNC, le Conseil national de la communication, organe chargé de la régulation des médias, a pris des sanctions contre certains d'entre eux. Il leur est reproché, selon le président du Conseil national de la communication, le manque de respect de l'éthique des médias et de la déontologie. Un reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Julta.
Des journalistes et directeurs de publications ainsi que 5 médias sont suspendus pour une période de 1 à 2 mois. Le journal The Post, qui paraît dans la région du Sud-Ouest en zone anglophone, est parmi les médias sanctionnés. Joe Chibonken Kalaboupse, président du Conseil national de la communication.
Suite à la publication le 11 septembre 2023 sur les réseaux sociaux de la une du journal The Post, des informations susceptibles de perturber la cohésion nationale et la paix sociale, le Conseil a décidé de suspendre le journal The Post et son directeur de publication délégué, Somme Sylvanus Kini, de ses activités de directeur de publication et de l'exercice de la profession de journalisme au Cameroun pour une période d'un mois, ainsi que le journal.
Deux jours avant cette sanction, une mesure administrative a interdit la parution et la distribution de journal de poste dans la région du Sud-Ouest. Nous sommes Sylvanus Kini, directeur de publication délégué du journal de poste.
Nous avons plus de 10 employés à Bouéa, à la direction générale. Ce sont eux qui faisaient la production de journal. Nous sommes en tout 20 employés, si vous nous ajoutez aussi. Les employés sont déçus, ils ont le moral bas parce qu'ils ne peuvent pas venir travailler au bureau. La base de la sanction que nous écopons repose sur le fait que la une a circulé sur les réseaux sociaux. Nous n'avons jamais publié l'article en question.
La pilule est amère sur le plan financier. RIS FM, une radio privée à Yaoundé, a été suspendue pendant 4 mois l'an dernier. Sismondi Balef Pichoka, son promoteur, a écopé de 3 mois de suspension.
Si on restait encore un mois fermé, j'ai déposé le bilan, carrément. La suspension était due à un phénomène politique. C'était juste un moyen de me mettre en difficulté. Puisque je ne suis propriétaire d'aucun immeuble, bon, les locaux de la radio, je les loue. Donc toutes les charges fixes que vous voyez là, j'ai payé mes employés durant ces 4 mois. Et donc j'ai perdu énormément.
Mardi dernier, le Syndicat national des journalistes du Cameroun a dénoncé dans un communiqué, je cite, « les méthodes de répression engagées envers les médias et les journalistes dans les régions de l'Adamawa et du Sud-Ouest ». Fin de citation. Jude Vuban, président de l'Association nationale des journalistes anglophones.
Nous, les journalistes, on aurait dû préférer un système d'auto-évaluation, mais comme le NCC est déjà là, on s'est dit, bon, on fait avec NCC. Mais maintenant qu'on veut faire avec NCC, maintenant l'administration vient intervenir encore. Donc c'est un peu, c'est du va et vient.
Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seduga, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.